Si aboutir à un plan pour l'Irak a été relativement simple, cela n'a pas du tout été le cas pour l'Afghanistan. Contrairement à la guerre en Irak, j'avais toujours considéré la campagne d'Afghanistan comme une guerre nécessaire. Bien que les ambitions des talibans aient été confinées aux frontières de l'Afghanistan, leur chef demeurait vaguement affilié à Al-Qaïda, et leur retour au pouvoir pourrait de nouveau faire du pays un tremplin pour fomenter des attentats contre les États-Unis et leurs alliés. En outre, le Pakistan n'avait su montrer ni la capacité ni la volonté de déloger le chef d'Al-Qaïda de son sanctuaire, dans une région montagneuse retirée, à peine gouvernée, à cheval sur la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Cela signifiait que notre capacité à cerner et à détruire le réseau terroriste dépendait du bon vouloir du gouvernement afghan à laisser les soldats et le renseignement américain opérer sur son territoire. Malheureusement, les 6 années pendant lesquelles l'attention et les ressources américaines s'étaient reportées sur l'Irak avaient rendu la situation en Afghanistan encore plus périlleuse. Nous avions beau avoir 30 000 militaires américains sur le terrain et presque autant de soldats de la coalition internationale, les talibans contrôlaient de vastes secteurs du pays, en particulier dans les régions limitrophes de la frontière pakistanaise. Là où ni les troupes américaines ni les troupes de la coalition n'étaient présentes, les combattants talibans l'emportaient largement sur une armée afghane bien plus importante en effectif, mais mal formée. D'autre part, la mauvaise administration et la corruption rampante au sein des forces de police, à la tête des provinces et dans les ministères clés, avaient érodé la légitimité du gouvernement de Hamid Karzai et siphonné les dollars d'aides étrangères dont le pays avait tant besoin pour soutenir une des populations les plus pauvres au monde. L'absence d'une stratégie américaine cohérente n'arrangeait pas les choses. Selon la personne à qui vous parliez, notre mission était soit très ciblée, faire disparaître Al-Qaïda, soit très large, transformer le pays en un État démocratique moderne qui serait aligné sur l'Occident. Nos Marines et nos soldats chassaient inlassablement les talibans de certaines zones, pour constater peu après que leurs efforts avaient été vains, faute d'une gouvernance locale un tant soit peu compétente. Que ce soit en raison de leur ambition trop grande, de la corruption ou du manque de conviction de la part des Afghans, les programmes de développement patronnés par les États-Unis n'aboutissaient pas, alors que la signature de nombreux contrats avec des interlocuteurs parmi les plus louches de Kaboul minait la lutte contre la corruption visant à gagner le peuple afghan à notre cause. À la lumière de tout cela, j'ai dit à Gates que ma première priorité serait de m'assurer que nos agences, aussi bien militaires que civiles, opéreraient dans le cadre d'une mission clairement définie et d'une stratégie coordonnée. Il n'y était pas opposé. En tant que directeur adjoint de la CIA dans les années 1980, Gates avait contribué à superviser l'armement des Moudjahidines afghans dans la lutte contre l'invasion de leur pays par les Soviétiques. Avoir vu cette insurrection plus ou moins inorganisée saigner la puissante armée rouge au point de la pousser au retrait, certains éléments de cette même insurrection évolueraient pour devenir Al-Qaïda, avait conduit Gates à réfléchir aux conséquences imprévues qui pouvaient découler d'actions imprudentes. Sauf à établir des objectifs limités et réalistes, m'a-t-il dit, nos efforts seront voués à l'échec. Le président du comité des chefs d'état-major interarmées, l'amiral Mike Mullen, était lui aussi convaincu de la nécessité de revoir notre stratégie afghane. Mais il y avait un hic. Lui et nos commandants militaires voulaient tout d'abord que j'autorise le déploiement immédiat de 30 000 soldats américains supplémentaires. Pour être juste envers Mullen, la demande qui émanait du commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan, le général Dave McKiernan, avait été déposée plusieurs mois auparavant. Pendant la transition, le président Bush avait sondé le terrain pour savoir si nous voulions qu'il ordonne le déploiement avant mon entrée en fonction, mais nous avions indiqué que nous préférions attendre que notre équipe évalue plus amplement la situation. D'après Mullen, la requête de McKiernan ne pouvait plus attendre. Lors de notre première réunion complète du Conseil de sécurité nationale, qui s'est tenue dans la salle de crise 2 jours avant mon investiture, Mullen avait expliqué qu'il y avait de fortes chances que les talibans organisent une offensive estivale et que nous allions avoir besoin de brigades supplémentaires au sol pour tenter de la contenir. Il a également rapporté que McKiernan s'inquiétait de la sécurité à assurer pour l'élection présidentielle, prévue à l'origine en mai, mais reportée en août. « Si nous voulons que des troupes soient sur place à temps pour accomplir ces missions, » m'a déclaré Mullen, « il faut engager les choses dès maintenant. » À cause des films, je m'étais toujours représenté la salle de crise comme un espace futuriste caverneux, les murs couverts jusqu'au plafond d'écrans connectés à des satellites haute résolution, montrant des images radar, grouillant de personnel élégamment vêtu, manipulant des tas de gadgets ultra-modernes. La réalité était moins reluisante, juste une petite salle de conférence banale, au milieu d'un dédale de petites salles coincées au rez-de-chaussée dans un coin de l'aile ouest. Les fenêtres étaient hermétiquement closes par des volets en bois naturel. Les murs étaient dépouillés, à l'exception d'horloges numériques qui indiquaient l'heure dans plusieurs capitales du monde, et de quelques écrans plats pas tellement plus grands que ceux qu'on aurait trouvés dans n'importe quel bar des sports de quartier. Il y avait beaucoup de monde. Les principaux membres du conseil étaient assis autour d'une longue table de conférence et différents adjoints et assistants s'entassaient sur des chaises le long des murs. « Pour que je comprenne bien, ai-je dit à Mullen en tâchant de ne pas paraître trop sceptique, après presque 5 années avec moins de 20 000 soldats et après en avoir envoyé 10 000 de plus au cours des 20 derniers mois, le Pentagone estime qu'on ne peut pas attendre 2 mois avant de décider de doubler les effectifs. J'ai fait remarquer que je n'étais pas hostile à l'envoi de troupes en renfort. Durant la campagne, je m'étais engagé à déployer 2 brigades supplémentaires en Afghanistan une fois que le retrait d'Irak aurait été amorcé. Mais comme toutes les personnes présentes venaient de donner leur accord pour que Bruce Rydell, un ancien expert de la CIA jouissant d'une excellente réputation, spécialiste du Moyen-Orient, dispose de 60 jours avant de nous remettre son rapport d'enquête sur lequel nous pourrions fonder notre stratégie en Afghanistan, l'envoi de 30 000 soldats avant qu'il ne rende ses conclusions me semblait être un bel exemple de situation où l'on place la charrue avant les bœufs. J'ai demandé à Mullen si un déploiement plus modeste suffirait à faire la jonction. Il m'a dit que, en dernier recours, c'était à moi de décider, en précisant bien que toute réduction du nombre ou tout report supplémentaire accroissait le risque de façon significative. J'ai laissé les autres s'exprimer. David Petraeus, auréolé de son succès en Irak, tout juste promu à la direction du commandement central, qui supervisait toutes les missions militaires au Moyen-Orient et en Asie centrale, notamment en Irak et en Afghanistan, m'a pressé d'accéder à la requête de McKiernan. Hillary et Panetta également, ce qui ne m'a pas étonné. L'un et l'autre se révéleraient d'une grande efficacité à leurs postes respectifs, mais leur instinct de faucon et leur cursus politique faisaient qu'ils rechignaient systématiquement à contredire la moindre préconisation émanant du Pentagone. En privé, Gates m'avait confié qu'il éprouvait une certaine ambivalence concernant un accroissement aussi important de notre présence en Afghanistan. Mais vu son rôle institutionnel, je n'attendais pas de lui qu'il prenne directement le contre-pied des chefs d'état-major. Parmi les hauts responsables à la sécurité nationale, seul Joe Biden a fait part de ses doutes. Il s'était rendu à Kaboul en mon nom pendant la transition, et ce qu'il avait vu et entendu au cours de son voyage, en particulier lors d'un rendez-vous peu concluant avec Karzai, l'avait convaincu que nous devions revoir dans son ensemble notre approche de l'Afghanistan. Je savais également que Joe s'en voulait encore d'avoir soutenu l'invasion de l'Irak des années plus tôt. Quel que fût l'enchevêtrement de raisons qui le motivait, il considérait l'Afghanistan comme un dangereux bourbier et m'a vivement conseillé de ne pas procéder tout de suite au déploiement, m'expliquant qu'il serait plus facile de placer des troupes une fois que nous aurions une bonne stratégie, plutôt que de retirer des troupes après avoir fichu la pagaille si nous en adoptions une mauvaise. Au lieu de prendre ma décision sur le champ, j'ai demandé à Tom Donilon de réunir tous les adjoints du Conseil de sécurité nationale au cours de la semaine suivante pour apprendre avec davantage de précision comment les troupes supplémentaires seraient utilisées et si les déployer durant l'été était tout simplement possible au plan logistique. Nous envisagerions à nouveau le problème une fois que nous aurions la réponse. La réunion terminée, je suis sorti de la salle et, en montant l'escalier pour regagner le bureau ovale, j'ai été rattrapé par Joe qui m'a pris le bras. « Écoute, patron, a-t-il dit, ça fait peut-être trop longtemps que je suis dans cette ville, mais il y a une chose que je sais reconnaître, c'est quand ces généraux essaient de coincer un nouveau président. » Il a approché son visage à quelques centimètres du mien et m'a soufflé en aparté « Ne les laisse pas t'embrouiller. » Dans les rapports ultérieurs sur nos délibérations concernant l'Afghanistan, Gates et les autres considéreraient que Biden avait été un des transfuges ayant empoisonné les relations entre la Maison-Blanche et le Pentagone. La vérité, c'est que j'estimais que Joe me rendait service en me posant des questions précises sur les projets de l'armée. Le fait d'avoir au moins un contradicteur dans la salle nous a obligés à examiner plus attentivement ces questions, et j'ai remarqué que chacun s'autorisait un peu plus de liberté pour exprimer son opinion quand le contradicteur n'était pas moi. Je n'ai jamais remis en question les motifs de Mullen, ni ceux des autres hauts gradés et membres du commandement de combat qui constituaient l'état-major de l'armée. Je trouvais Mullen, qui était originaire de Los Angeles et dont les parents travaillaient dans l'industrie du spectacle, invariablement affable, préparé, réactif et professionnel. Son vice-président, James Cartwright, dit Hoss, un général 4 étoiles des Marines, avait des manières discrètes et étudiées qu'on n'aurait pas nécessairement associées à un ancien pilote de chasse, mais lorsqu'il prenait la parole, il apportait un point de vue détaillé et des solutions judicieuses sur tout un éventail de questions ayant trait à la sécurité nationale. Malgré leurs différences de tempérament, Mullen et Cartwright avaient en commun des attributs que je retrouvais chez tous les hauts gradés. Des hommes blancs, quand je suis entré en fonction, il n'y avait dans l'armée qu'une femme et un noir au grade de général 4 étoiles, la grosse cinquantaine ou une petite soixantaine, qui avait passé des décennies à gravir les échelons, amassant d'excellents états de service, et qui, dans bien des cas, avait fait des études universitaires très poussées. Leur vision du monde était bien informée, sophistiquée, et contrairement aux stéréotypes, ils ne comprenaient que trop bien les limites de l'action militaire, justement parce qu'ils avaient commandé des troupes et non pas malgré cela. Au demeurant, durant les 8 années de ma présidence, ce sont souvent des généraux et non pas des civils qui m'ont invité à la modération lorsqu'il était question de recourir à la force. Néanmoins, des hommes comme Mullen étaient les créatures d'un système auquel ils avaient consacré toute leur carrière. Une armée américaine qui mettait un point d'honneur à mener à son terme toute mission entamée, sans tenir compte du coût, de la durée ou du bien fondé de la dite mission. En Irak, cela s'était soldé par une surenchère à tout point de vue. Plus de soldats, plus de bases, plus d'entrepreneurs privés, plus d'avions, plus de renseignements, de surveillance et de reconnaissance. Cette forte augmentation des moyens n'avait pas abouti à la victoire, mais avait au moins permis d'éviter l'humiliation d'une défaite et l'écroulement du pays. À présent que la situation en Afghanistan semblait prendre le même chemin, le pays s'enfonçant dans un tourbillon sans fond, il était sans doute logique que les militaires réclament aussi une augmentation de tous les moyens. Et comme ils avaient jusqu'à récemment travaillé avec un président qui avait rarement remis en question leurs projets ou refusé d'accéder à leurs requêtes, il était sans doute inévitable que le débat pour savoir combien en plus devienne une source récurrente de conflits entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Mi-février, Donilon a fait savoir que les adjoints n'abondaient pas dans le sens du général McKiernan et concluaient que pas plus de 17 000 soldats, ainsi que 4 000 formateurs militaires, pouvaient être déployés pour avoir un impact significatif sur les combats ou la sécurité de l'élection afghane. Même si nous avions encore un mois avant que l'évaluation formelle soit rendue, tous les hauts responsables, à l'exception de Biden, réclamaient que l'on déploie immédiatement ce nombre de soldats. J'en ai donné l'ordre le 17 février, le jour où j'ai signé le Recovery Act, ayant estimé que même la stratégie la plus conservatrice que nous pourrions concocter nécessiterait des effectifs supplémentaires, sachant que nous avions encore 10 000 soldats en réserve si les circonstances requéraient également leur déploiement. Un mois plus tard, Rydell et son équipe rendaient leur rapport. Leur conclusion était sans surprise, mais elle permettait de formuler notre objectif principal, contrecarrer, démanteler et vaincre Al-Qaïda au Pakistan et en Afghanistan et empêcher à l'avenir son retour dans l'un ou l'autre pays. Ce que précisait ensuite le rapport sur le Pakistan était essentiel. Non seulement l'armée pakistanaise, et en particulier ses services du renseignement militaire, tolérait la présence du QG et du chef des talibans à Quetta, près de la frontière, mais en outre, elle prêtait tranquillement assistance aux talibans, ce qui était un moyen de maintenir en état de faiblesse le gouvernement afghan, l'armée pakistanaise redoutant un potentiel alignement de Kaboul avec l'Inde, le principal rival du Pakistan. Le fait que l'État américain ait toléré un tel comportement de la part de l'un de ses prétendus alliés, lui versant des milliards de dollars en aide militaire et économique malgré sa complicité avec de violents extrémistes et sa contribution importante et irresponsable à la prolifération de la technologie des armes nucléaires dans le monde, en disait long sur la logique alambiquée de la politique étrangère américaine. À court terme, toutefois, couper entièrement l'aide militaire au Pakistan était inenvisageable, car non seulement nous dépendions de son réseau routier pour nos déplacements par voie de terre pour l'approvisionnement de nos opérations en Afghanistan, mais en plus, le gouvernement pakistanais favorisait tacitement nos opérations d'antiterrorisme contre les camps d'Al-Qaïda sur son territoire. Le rapport Rydell, pourtant, clarifiait une chose. Tant que le Pakistan continuerait à protéger les talibans, nos efforts pour instaurer une stabilité à long terme en Afghanistan étaient voués à l'échec. Les autres préconisations du rapport se focalisaient sur le soutien à apporter pour développer les compétences du gouvernement Karzai. Nous devions vigoureusement améliorer son aptitude à gouverner et à fournir un minimum de services. Il était nécessaire que nous formions l'armée et la police afghane afin qu'elles soient en mesure, en termes de qualification et d'effectifs, d'assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières du pays sans l'aide des forces américaines. La manière dont nous allions accomplir tout cela demeurait incertaine. Ce qui était clair, en revanche, c'est que l'implication américaine que le rapport Rydell appelait de ses vœux allait bien au-delà d'une simple stratégie d'antiterrorisme et prenait plutôt la forme de l'édification d'une nation, ce qui aurait sans doute été tout à fait pertinent, mais il aurait fallu pour cela que nous lancions le processus 7 ans plus tôt, à l'époque où nous avions chassé les talibans de Kaboul. Seulement, bien sûr, ce n'est pas ce que nous avions fait. Au lieu de ça, nous avions envahi l'Irak, que nous avions brisé, contribué à faire éclore une branche encore plus virulente d'Al-Qaïda, et été obligé d'improviser une coûteuse campagne de contre-insurrection sur place. En ce qui concernait l'Afghanistan, ces années étaient perdues. Grâce à la persévérance, souvent vaillante sur le terrain, de nos troupes, de nos diplomates et de nos humanitaires, il était exagéré de dire qu'il aurait fallu repartir de zéro en Afghanistan. Mais je me rendais compte que même dans le meilleur des scénarios, même si Karzai coopérait, si le Pakistan se comportait correctement et si nos objectifs se limitaient à être suffisants pour l'Afghanistan, comme aimait à dire Gates, nous avions encore devant nous de 3 à 5 ans d'efforts intenses, qui coûteraient des centaines de milliards de dollars en plus et des vies américaines. Cette option ne me plaisait guère, mais dans ce qui devenait un schéma récurrent, les autres options étaient pires. Les enjeux, les risques d'un possible effondrement de l'État afghan ou la reconquête des plus grandes villes par les talibans, étaient tout simplement trop importants pour que nous n'agissions pas. Le 27 mars, 4 semaines à peine après avoir annoncé le plan de retrait de l'Irak, je suis apparu à la télé avec mon équipe de sécurité nationale à mes côtés et j'ai présenté notre stratégie dite du AFPAC, fondée dans une large mesure sur les préconisations de Rydell. Je savais comment mon annonce serait perçue. Bien des commentateurs sauteraient sur l'occasion pour relever l'ironie de la situation. Le candidat ayant fait campagne sur le thème anti-guerre avait envoyé plus de soldats sur le terrain qu'il n'en avait rappelé. Outre l'augmentation des effectifs, Gates m'a demandé de procéder à un autre changement concernant l'Afghanistan, un changement qui m'a vraiment surpris. En avril, au cours de l'une de nos réunions dans le bureau ovale, il a recommandé que nous remplacions notre commandant actuel en Afghanistan, le général McKiernan, par le lieutenant-général Stanley McChrystal, l'ancien commandant des opérations spéciales interarmées, GSOC, et actuel directeur de l'état-major interarmé. Dave est un bon soldat, a dit Gates, reconnaissant qu'il n'avait pas commis d'erreur et que changer de général en chef au milieu d'une guerre était une mesure hautement inhabituelle. Mais c'est un gestionnaire. Dans un environnement aussi éprouvant, nous avons besoin de quelqu'un ayant d'autres qualités. Je ne pourrais pas dormir la nuit, monsieur le président, si je ne faisais pas ce qu'il faut pour que nos troupes aient le meilleur commandement possible à leur tête. Et je suis convaincu que Stanley McChrystal est cette personne. Il était aisé de comprendre pourquoi Gates avait une si haute opinion de McChrystal. Au sein de l'armée, les membres des opérations spéciales étaient considérés comme une espèce à part, une classe de guerriers d'élite qui accomplissaient les missions les plus difficiles dans les circonstances les plus dangereuses. Les gars dans les films qui descendaient élitreuillés en plein territoire ennemi ou procéder à des débarquements amphibies à la faveur de la nuit. Et au sein de ce cercle de haut rang, personne n'était plus admiré ni n'inspirait plus de respect que McChrystal. Diplômé de l'Académie militaire de West Point, il avait constamment excellé au cours de ses 33 années de carrière. En tant que commandant du GSOC, il avait contribué à transformer les opérations spéciales en un élément central de la stratégie de défense américaine, supervisant personnellement des dizaines d'opérations antiterroristes qui avait démantelé une bonne partie d'Al-Qaïda en Irak et tué son fondateur, Abu Musab al-Zarqawi. Selon la rumeur, à 54 ans, il s'entraînait encore avec des Rangers 2 fois plus jeunes que lui, et d'après son allure lorsqu'il est venu avec Gates me rendre une visite de courtoisie dans le bureau ovale, j'ai volontiers cru la rumeur. L'homme était tout en muscles, tendons et os, avec un long visage anguleux et un regard perçant d'oiseau. En fait, les manières de McChrystal étaient celles de quelqu'un ayant banni de sa vie la frivolité et les distractions. Et donc, du moins avec moi, tout bavardage inutile. Pendant notre conversation, ses propos se sont résumés essentiellement à « Oui, monsieur le président, non, monsieur le président, et je suis sûr que nous pouvons accomplir cette mission. » J'ai été conquis. Le changement, une fois annoncé, a été bien accueilli. Et certains commentateurs ont fait le parallèle entre McChrystal et David Petraeus, des innovateurs sur le champ de bataille, capables d'inverser l'issue d'une guerre. Le Sénat n'a pas tardé à valider sa nomination, et à la mi-juin, tandis que McChrystal, désormais général 4 étoiles, se préparait à assumer le commandement des forces de coalition en Afghanistan, Gates lui a accordé 60 jours pour qu'il nous livre une évaluation complète des conditions sur place, ainsi que ses préconisations en matière de changement, de stratégie, d'organisation ou d'allocation des ressources des forces de la coalition. J'étais alors loin d'imaginer ce sur quoi cette requête, apparemment de routine, déboucherait.